Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Galère au 88.4 et vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 13 mars et comme tous les mercredis, nous sommes en direct de 19h à 20h. L'émission sera rediffusée demain à 9h, jeudi 14 mars. Et pour nous réécouter ensuite, ça se passera sur le site de Radio Galère, rubrique Écoforum, et très bientôt disponible sur Spotify. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, dans votre voiture, chez vous, en replay, probablement que, comme nous, vous vous posez des questions sur l'état du monde et que cela vous préoccupe. Vous observez les effets du dérèglement climatique chez vous, comme par exemple toutes les inondations qui touchent le sud de la France actuellement. Ou vous observez les tensions sociales, comme par exemple une polémique autour de l'artiste qui fera la cérémonie d'ouverture au JO. L'état du monde vous préoccupe, mais il y a aussi les tracas du quotidien. Le travail, le temps qu'on peut accorder à ses proches ou à ses passions. Alors comment concilier tout cela? Comment concilier la fin du monde et la fin du mois? Que faire quand tout cela nous dépasse et comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi, sur les ondes de Radio Galère, notre émission tente de répondre à ces vastes questions. Chaque mercredi soir, la Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Nos invités aussi se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils ont créé leurs projets, répondent aux problématiques du territoire. Surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Et ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse et donne du fruit, montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot. Ce soir, je suis accompagnée en studio de Marin Moffret, de Mathieu et de Sidi. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christophe d'Alternatiba Marseille, ainsi que Martine en ligne de Marseille en transition. Donc c'est une grande première en ce qui me concerne d'avoir un invité au téléphone. Ça va être un peu particulier. Mais bonsoir à nos invités.
Bonsoir.
Martine, tu nous entends ?
Oui, très bien.
Cela fonctionne super. Alors, donc ce soir, nous, d'une part, nous recevons Alternatiba, qui est une association nationale implantée partout en France depuis 2014 et qui a des antennes partout sur le territoire. Christophe, toi, tu es la personne qui est... Enfin, voilà.
Je suis un des animateurs du groupe marseillais d'Alternatiba.
C'est ça, tu représentes donc l'antenne marseillaise. Et donc d'autre part, Marseille en transition, qui est membre du réseau des villes en transition, qui compte plus de 900 initiatives à travers le monde. Et avant de creuser ce que font ces deux associations que nous recevons ce soir, j'aimerais que vous vous présentiez individuellement. Peut-être Martine, qui est au bout du fil, peut commencer ?
Oui, alors donc je m'appelle Martine, j'ai rejoint Marseille en transition il y a un an et demi. Voilà, simplement parce que j'avais à cœur d'œuvrer sur le plan associatif pour l'écologie. Et bien entendu, je le précise, mais pour moi c'est une évidence, de façon sociale, voilà, d'écologie sociale, parce qu'il n'est pas question d'imaginer faire quelque chose pour l'écologie, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, sans que ce soit couplé à des mesures sociales.
Super, merci pour ces premiers éléments. Et je vais me permettre de creuser un petit peu, puisque nous, dans l'émission, on cherche à aller du moi au nous et du nous au tout. Donc, vraiment de creuser ce qui fait qu'en tant qu'individu, qu'est-ce qui amène à s'investir dans des projets en faveur de la transition écologique et sociale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'investis auprès d'une association comme Marseille en transition ?
Alors, mon parcours, il est très banal. J'ai été maman d'abord, et puis mes enfants ont grandi et je me suis dit que j'avais du temps et que ce temps-là, ce serait bien qu'il serve à quelque chose de plus général, justement. Et ce qui me touchait le plus, c'était l'écologie. Donc j'ai commencé par rejoindre un parti politique. Je suis référente pour les Bouches-du-Rhône de Place Publique, qui a un très fort tropisme pour l'écologie. Et puis j'ai eu envie d'agir aussi sur le terrain, de mettre un peu les mains dans la terre, puisqu'entre autres, on plante dans les rues, histoire d'apporter un petit peu de verdure en pleine ville et de réfléchir sur ce qu'on pouvait apporter directement aux habitants tout en les faisant participer. Parce que le but, c'est pas de faire et d'apporter aux gens des solutions toutes faites, mais de les faire participer à l'élaboration de ces solutions.
Super. Bah, on va revenir plus en détail sur l'action de Marseille en transition un peu plus tard dans l'émission. Je vais donner la parole à Christophe. Est-ce que tu peux te présenter, toi, en tant qu'individu, mais aussi ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu t'es investi auprès d'Alternativa et plein d'autres associations?
Ok. Le début de mon engagement, ça a plutôt été du côté social à l'origine, parce que j'ai subi du harcèlement moral au travail. Et je me suis dit qu'en fait, ce monde-là, en fait, c'est là où j'ai pris conscience que ce monde-là n'allait pas et que c'était de fil en aiguille. Après pas mal de lectures, j'ai vu que le capitalisme, c'était vraiment quelque chose qui était fondamental dans tout ce qui ne va pas dans cette société. Et mes enfants grandissant, ben en fait, je me suis posé la question de savoir dans quel monde ils allaient vivre. Et la prise de conscience écologique est arrivée à ce moment-là. Et là, pareil, j'ai fouillé, je me suis documenté, j'ai commencé à rencontrer des gens qui parlaient de ça. J'ai fait un peu aussi de militantisme politique. Et puis, ça ne m'allait pas parce que même si dans les valeurs, le programmatique, ça pouvait coller, mais dans les relations humaines, ce n'était pas du tout le cas. Ce que je recherchais à ce moment-là, c'est de pouvoir essayer de réfléchir à un autre monde, lutter mais aussi construire un autre monde, et tout ça dans quelque chose qui était beaucoup plus bienveillant. Et j'ai trouvé l'association qui me convenait par Alternativa, puisque vraiment c'est l'entraide qui prévaut, c'est la bienveillance, et on essaie de faire des actions qui sont radicales dans le sens où on prend les problèmes à la racine. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé pour m'investir de plus en plus dans cette association.
Ok, et je serais curieuse de savoir quel a été ton premier contact avec Alternativa. Comment tu l'as découverte? Quelle est la personne qui t'a embarqué dans cette aventure? Le premier contact, si tu t'en souviens.
C'est rigolo parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'était avec le Tour Alternativa 2018.
Quelle transition, voilà. C'était pas prévu.
Non, voilà. Okay. Et donc c'est parce qu'en fait, j'avais l'envie, quand j'étais militant puis politique, de faire un village des alternatives. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu sais qu'il y a Alternativa qui fait un tour et qui font des villages des alternatives. » Et du coup, je suis allé les voir. Et puis c'est là que j'ai découvert ce groupe-là. La méthodologie aussi d'animation de réunion, des choses comme ça, que je n'avais jamais vu autre part ailleurs et que j'ai trouvé hyper efficace. Et c'est ça qui était vraiment important aussi pour moi, de l'efficacité, la convivialité et la radicalité de ce qu'on pouvait faire.
Ok, super, merci beaucoup pour cette présentation, Christophe et Martine. Et moi, ce que je retiens dans vos deux présentations, c'est qu'il y a eu le dénominateur commun qui sont les enfants. Souvent, on parle de voyage ou d'une expérience professionnelle suivie d'un burn-out qui fait office de déclic. Dans vos deux récits, ce sont les enfants, donc c'est très intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de vos associations respectives. Martine, est-ce que tu pourrais nous présenter Marseille en transition? Tout le mouvement des villes en transition. Il me semble qu'il y a un certain Rob Hopkins qui est derrière à l'initiative, qu'on adore et qui adore Marseille aussi. Donc voilà, si tu es en ligne, Martine, parle-nous de Marseille en transition, s'il te plaît.
Martine n'est pas là. Alors, ça tombe bien. Christophe, prends le relais. Okay. En plus, tu en parlais il y a 2 secondes. Est-ce que tu pourrais donc nous présenter Alternatiba, l'association au national, mais peut-être plus en détail le fonctionnement de Alternatiba à Marseille? Est-ce que d'ailleurs il y a Marseille, Bouches-du-Rhône? Je sais que vous avez aussi des groupes de travail sur les mobilités, sur les déchets. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter l'association et son fonctionnement?
Ok. Alors, Alternatiba, comme tu l'as dit, c'est une association qui est nationale, qui est née en 2013 et qui a commencé à faire des villages des alternatives et dans le but, bah, justement, de construire une stratégie. En fait, la stratégie d'Alternatiba au niveau national, c'est de construire un mouvement de masse. Et pourquoi on construit un mouvement de masse? Bah, pouvoir remporter des victoires et répondre aux défis du dérèglement climatique. Et par le biais de plein d'actions, que ce soit du plaidoyer, des manifestations, de la sensibilisation, et par le biais d'un collectif qui n'est pas Alternatiba mais qui est ANV COP21, qui peut faire de la désobéissance civile, dont des actions marquantes qui ont été faites, comme le décrochage des portraits de Macron dans les mairies, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est des campagnes qui sont nationales. Après, c'est décliné localement. Alors, toutes les antennes d'Alternatiba sont complètement indépendantes, j'allais dire, du niveau national, financièrement, etc. Et donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir créer nos propres actions locales. Et donc, à Marseille, donc, le groupe... Alors, il y a eu un groupe qui est né en 2015 lors du passage du premier tour Alternatiba. Et puis, ce groupe, après, a arrêté. Et par contre, en 2017, il y a eu la création d'un nouveau groupe pour la préparation du tour Alternatiba 2018. Et par contre, là, les gens ont décidé de continuer. C'est un collectif. Et puis, on s'est transformé en 2019 en association. Et à partir de là, bah, on a grossi. Et puis, on a très fortement, on a été très, très impliqués dans la création de la base Marseille, qui est vraiment dans le paysage militant marseillais, qui est très importante, puisqu'elle accueille tous les collectifs et toutes les associations qui sont pour la justice climatique et sociale.
Formidable endroit, la base à Marseille, un incontournable, un endroit où personnellement j'y passe beaucoup de temps et heureusement que cet endroit existe. Ouais.
Voilà, puis c'est autogéré, donc c'est dans la dynamique aussi de ce qu'on veut porter comme un changement de société, de se dire, il faut revoir tous les rapports de hiérarchie qu'il y a entre les individus et les classes, etc. Et revoir tout ça pour refonder une autre société qui soit, comme tu l'avais dit tout à l'heure, résiliente. Et donc, comment on fait ça? En fait, il faut déjà qu'on empêche des projets écocidaires ou sociaux de s'empirer. Et aussi, une fois qu'on lutte contre quelque chose, il faut aussi proposer autre chose, les alternatives, et construire les alternatives ensemble, construire aussi des nouveaux récits ensemble, et notamment Marseille en transition est pas mal avancé là-dessus.
Ouais, c'est une bonne présentation. Ouais. Moi, en préparant cette émission, j'ai appris que Alternatiba, ça voulait dire alternative en basque, et que c'était une association qui avait été fondée à Bayonne. Voilà, petit point culture générale pour les personnes qui nous écoutent. Aussi, j'avais envie de te poser la question de combien vous étiez à Marseille dans l'association.
Actuellement ?
Ouais, tu aurais
actuellement, on est 92 membres, donc qui sont adhérents et adhérentes.
Ok.
Mais au niveau des sympathisants et des sympathisantes, il y a à peu près 200 personnes qui gravitent autour.
Ok. Voilà. Ouais, non, c'est massif. Et est-ce que tu peux avoir un petit mot pour j'ai notamment vu la BD qui avait été faite par Benjamin sur Pellingrin pour Mars Mob. Ouais. Voilà, donc ça, c'est votre groupe de travail qui est dédié au sujet de mobilité douce.
Alors, ce ne sont pas des groupes de travail. Comme groupe de travail, on a plus la communication, des choses un peu structurantes de l'association. Nous, ce qu'on développe beaucoup, c'est de l'interassociatif. Et par cet interassociatif, on crée des campagnes. Et par exemple, Marseille en transition, c'était une campagne à l'origine d'Alternatiba.
D'accord.
Qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur et qui, à un moment donné, c'était bien que Marseille en transition puisse prendre sa propre indépendance et se transformer en association. Et là, on a des campagnes en cours dans lesquelles on participe. On ne les a pas toutes initiées, mais on est très présent dans la plupart de ces campagnes, notamment Stop Croisière, dont vous avez dû entendre parler. Oui. Mars Mobile, donc le collectif Marseillais des mobilités de demain, avec 15 associations qui sont sur les vélos, les piétons, mm-hmm. voilà, tout ce qui peut concerner en fait les mobilités. On a une campagne sur les déchets aussi, ouais. et notamment la taxation des déchets, faut savoir que les Marseillais payent plus 40% plus de taxes pour les déchets que dans d'autres villes.
Ouais, voilà. Une grosse campagne de stickers avait été faite à l'hiver dernier. Vous avez certainement vu les stickers sur les poubelles, amis Marseillais, Marseillaises.
Et donc, on a une campagne qui débute un peu là, sur la précarité énergétique et le logement indigne.
D'accord.
Voilà. Et on a toujours Stop Extension de l'aéroport. Là, on lutte contre l'extension de l'aéroport Marseille-Marignane qui veut doubler le nombre de passagers alors qu'on sait très bien que, en fait, il faut presque arrêter de se déplacer en avion, sauf pour certaines situations.
Ouais. Voilà. Oui, d'ailleurs, vous avez eu une action récemment, week-end dernier, c'est ça ?
Alors, on a fait des recours en justice. Donc, okay. on a deux actions en justice pour l'instant. Une contre l'extension de l'aéroport et une contre les croisières.
Ok. Voilà. Bon, ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Ouais. Est-ce qu'on a retrouvé Martine ? J'ai l'impression que non. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots Marseille en transition, quelle est l'initiative derrière, comme j'ai mentionné, le réseau des villes en transition. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, Christophe, vu que...
Ouais. Alors, il faut que je me replonge un peu dans les souvenirs. Mais... parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marseille en transition, ça a été une des campagnes qui a été initiée par Alternatiba, Marseille. Mmh. Et on est parti du fait qu'il ne fallait plus qu'on attende que les politiques agissent. Que le plaidoyer, c'était très bien, et que, en l'occurrence, ça ne suffisait pas, et qu'il fallait vraiment qu'on passe à l'action. Donc, on s'est dit, on va agir, nous, la transition, on va la faire, nous. Et on a commencé à faire des ateliers d'imagination collective du futur. Mmh. Et à partir de là, est née plusieurs idées. La première, c'était de créer ce qu'on a appelé au début une VG route.
D'accord.
Et qui était, de végétaliser des voies. Dans la ville. Et de fil en aiguille, au fil des mois et des années, c'est devenu le projet qui s'appelle La Rue est verte. Et ce projet, en fait, il a pour but de relier les quartiers nord aux quartiers centre.
Alors, excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai l'impression qu'on a de nouveau Martine qui est en ligne. Est-ce que cela fonctionne ? De loin. Alors, est-ce que tu penses que c'est confortable pour toi de nous présenter le projet de la Rue est verte, qui est en plus une superbe initiative que tous les Marseillais et Marseillaises devraient connaître ?
Oui, alors oui. Donc, la Rue est verte, c'est parti d'une idée qui était de rejoindre l'après-m, donc dans le 14e à Sainte-Marthe, à la base, dans le 4e au Chartreux, par une voie douce, donc piétonne ou éventuellement vélo, plantée bien entendu. Et l'idée étant à la fois d'avoir un projet donc écologique permettant de mettre de la verdure, d'apporter de la verdure dans tous les quartiers, et en même temps de relier deux mondes qui semblent très éloignés, puisque nous on s'amusait à faire la balade en partant de l'après-m et pour rejoindre la base à pied, et qu'on a vraiment l'impression, quand on passe Plombières, le boulevard de Plombières, de changer de ville. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est deux parties de Marseille qui sont complètement séparées, qu'il y a une frontière entre les deux. Donc notre idée, c'était à la fois d'avoir une action écologique et une action permettant à ces deux mondes de se rejoindre, de fonctionner ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le projet, la vision idéalisée. Et puis, on s'est dit qu'en fait, on ne voulait pas, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne voulait pas apporter juste un projet tout fait comme ça. Pour autant qu'on ait la structure pour le réaliser, parce que c'est quand même un énorme projet, qu'on voulait vraiment le co-construire avec les habitants. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par identifier ce qu'on a appelé des micro-projets, c'est-à-dire aller voir les associations sur le trajet imaginé pour cette rue verte et essayer d'identifier des choses que les habitants soit ont commencé à faire, soit voudraient réaliser pour leur quartier. Un quartier à une petite échelle, là, hein, vraiment juste autour d'eux. et de leur proposer notre aide pour ce projet-là, tout en leur disant que c'est un projet qui va se retrouver, qui est voué normalement à se retrouver dans un tout sur le trajet de cette ruée verte. Voilà, donc pour l'instant, on va à la rencontre des habitants, on les écoute, on essaie de voir ce qu'ils ont envie de faire, de leur parler de ce que nous, on avait imaginé, et de voir si les projets peuvent matcher. On voudrait identifier une dizaine de micro-projets comme ça, qui soient un petit peu des points, des petits tirés, des pointillés entre les deux lieux. Et puis une fois qu'on aura fait ça, en effet, aller plus loin dans la construction de cette voie verte.
Super. Bah, merci beaucoup, Martine, pour cette belle présentation du projet de la rue est verte. Et j'imagine que le Tour Alternativa sera la belle occasion de mettre un coup de projecteur sur ce projet et le travail que vous menez auprès des habitants, habitantes, pour récolter leurs avis, ce dont ils ont envie, pour que vraiment ce soit eux, les utilisateurs, utilisatrices, au centre du projet. C'est vraiment indispensable. Donc, bravo pour ce projet. Et qu'est-ce qu'on a hâte de le voir émerger. J'imagine que ça va prendre quelques années quand même. Mais tout notre soutien pour ce beau projet de la rue est verte qui mérite d'être connu et connu de tous les Marseillais. Je vois qu'il est l'heure de la pause musicale. Après, on discutera plus en détail du Tour Alternativa. Mais est-ce que, Christophe, tu peux me présenter la chanson que tu as choisie pour la pause?
Ah, oui. Oui, alors j'ai choisi une chanson c'est pas la chanson qui a une histoire, mais c'est avec le groupe, en fait. On s'était donné le pari, il y a un an, d'aller rencontrer Chaka Ponk, au moins de tenir un stand avec eux, puis éventuellement faire quelques images pour parler de nos actions. Et en fait, après plein de contacts, on a réussi à se rapprocher un petit peu pas mal du groupe même. Et puis, une semaine avant, on avait presque perdu l'espoir parce que les gens ne nous répondaient plus. Et finalement, il y a un sympathisant qui est arrivé, qui a dit « Mais moi, je connais le photographe du groupe et je peux essayer de vous mettre en contact. » Et puis, au final, on a eu le contact direct du groupe, notamment de Fra, le chanteur de Chaka Ponk. Et en 2 jours, du coup, on avait l'accord pour venir faire un stand à leur concert. Et en fait, l'équipe technique du groupe et le groupe par lui-même, ils sont vraiment incroyables, vraiment très, très humains, enfin, bien sûr, ils sont humains, mais j'allais dire, voilà, les rapports qu'ils ont pu développer avec nous sont vraiment, vraiment géniaux. Et donc, on a pu aller les rencontrer, notamment la chanteuse Sam, avec qui on a bien pu échanger après le concert, et qui nous a même fait une petite vidéo pour appeler les gens à venir au Tour Alternativa.
Super.
Et on espère bien continuer ces relations avec le groupe, parce que faut savoir qu'ils l'arrêtent à la fin de l'année.
Et oui.
Pour des raisons écologiques. Mmh. Donc vraiment, il y a une vraie signification. Et il se trouve qu'ils seront le 5 octobre, qu'ils joueront à Aix. Et le Tour Alternativa arrive à Marseille du 4 au 6. On a peut-être l'espoir d'arriver à les faire venir un peu sur le tour. Et ça, mais pourquoi pas, en fait, et peut-être leur demander encore d'autres choses. Enfin, on verra. Vraiment, on se met à rêver, mais on a réussi la première fois. Donc,
c'est un groupe, voilà, qui est vraiment allié d'Alternativa.
Alors, oui. En fait, ils ne nous connaissaient pas plus que ça auparavant. Ils sont plutôt alliés à Sea Shepherd.
D'accord.
C'est de vrais partenaires. Et nous, ben, en fait, c'est grâce à Alternativa Marseille qu'on a pu vraiment commencer à tisser ces liens. Et puis, on espère, pourquoi pas, que ça aille plus loin. Et voilà, et puis, c'est un groupe qui est vraiment très, très engagé pour la justice climatique et sociale. Donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on véhicule.
Alors, c'est parti. On écoute Chaka Ponk, Tout le monde danse.
Je sors à peine de la crise de nos quarantaines. Et je me traîne. Les autres sont repassés sur le même thème. Mais je suis pas la même, pas la même, même. Si tout le monde danse en belle assemblée et que le beat cogne, même si quelques-uns pensent à se rassembler et que les flics cognent. Everybody dance. Everybody dance.
dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody.
Tout le monde danse quand ces gens-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Tu dis que l'amour existe que le système. Mais je suis Ken, je suis Ken. Tout le monde s'écrase, tout le monde rejoue la même scène. Mais ça ne vaut pas la peine, pas la peine. Même si tout le monde danse pour ne pas penser, on ne pense qu'à les pensées. Même quand tous ces gosses pensent à tout balancer, c'est du mineur en majorité.
Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody.
Tout le monde danse quand ces gens-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Je danse pas cette heure, je danse pas les fausses guerres. Je danse pas quand on dit que tout est son contraire. Je danse pas quand ces gens-là claquent des doigts. Les aiguilles de fer dans des clés de bras. Je danse pas, je danse pas pour le beat qui s'agite dans le ministère Big Pharma. Je danse pas quand la vie s'enterre sous les carrières. Leur message d'amour pour la terre. Je danse pas les palaces qui défoncent, qui t'effacent, qui t'encrassent l'art, la terre et les artères. En fait dans les lois, voter au pas de loi. Dans mes orgies romaines, Paris 7ème. Je danse pas et je prends pas la pause pour qu'on nous fourre des doses sous hypnose médiatique. Les trois singes j'en laisse pour une presse inspire. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Je danse pas quand ces gens-là claquent des doigts. Je pense pas comme ces tâches qui croient que pour que rien ne s'effondre, il suffit de s'en foutre. Ce cri de la vie que personne n'écoute. Je danse pas pour les masses. Pour les putaclics et les politiques, ils s'échangent des gosses par millions de minois. Mais je t'ai asservi pour les putains lobbies sur Insta. Je danse pas sur la peur, les couvains, les muselières, aux infirmières, les docteurs bannis des médias pour laisser les antennes aux promos de la haine d'un faux candidat. Je danse pas pour ces mioches au pouvoir, des yeux de fou et au désespoir. Je danse pas pour ces alliances qui pourrent, qui cassent le vivant comme un. Mais moi je danse pas. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent des doigts. Mais moi je danse.
Vous êtes bien en direct de Radio Galère sur 88.4. Nous venons d'écouter Chaka Ponk, le titre qui a été choisi par nos invités du soir. Tout le monde danse, ça c'est le nom du titre. Nos invités ce soir sont Christophe d'Alternatiba et Martine de Marseille en Transition, qui est au bout du fil. On l'a.
Martine qui est au bout du fil.
Oui, c'est bon, elle est toujours avec nous, formidable. Alors, donc en première partie de cette émission, on a parlé de vos deux associations respectives qui sont donc Alternatiba et Marseille en Transition, qui sont positionnées sur les questions de justice climatique et sociale. Et on a commencé à évoquer un événement d'ampleur qui se tiendra en France très prochainement, mais qui se terminera particulièrement à Marseille du 4 au 6 octobre 2024. C'est donc le Tour Alternatiba. Christophe, est-ce que tu peux me présenter cet événement? Quel est le programme? Quel est le concept? Combien de personnes sont attendues? En quoi ça va rivaliser avec l'arrivée de la flamme des Jeux Olympiques le 8 mai?
Bon, déjà, c'est un vrai Tour de France qu'on va faire à vélo et pas qui ne ressemblera pas au Tour de France cycliste de mois de juillet, qui sera bien plus étendu que ça, puisque ce sera 6000 km à vélo qui vont être faits et il y aura à peu près 200 étapes. Et donc, c'est une quinzaine de cyclistes qui vont partir de Nantes le 1er juin, où il y aura un premier événement, un premier village des alternatives à Nantes le 1er juin, et qui va parcourir d'abord le nord de la France, redescendre, aller dans l'est, redescendre dans le sud-ouest, remonter au centre, passer par les Alpes-Maritimes et terminer donc à Marseille. Okay. Comme tu l'as dit, du 4 au 6 octobre.
Et donc, il y aura qui dans ce cortège à vélo?
Alors, il y aura des bénévoles et peut-être même des salariés de l'Alternativa, je crois, qui seront à vélo. Il y aura des équipes qui vont se relayer, en fait. Mais c'est des gens qui vont être formés. Et d'ailleurs, les personnes, s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire du vélo, ben, en fait, ils peuvent aller sur le site internet d'Alternativa National et cliquer sur le tour et puis de se proposer comme bénévole, soit sur les étapes, soit sur...
Formidable appel aux personnes qui veulent faire des vacances décarbonées cet été, à vélo, en bikepacking, comme on dit. Rejoignez le Tour Alternativa à travers la France.
Et donc, il y aura des vélos normaux, mais il y aura des tandems, des tricycles et une quadruplette aussi.
Ok, voilà. Qui est le logo d'Alternativa.
Exactement. Voilà.
C'est pour ça, d'ailleurs?
Oui, oui, oui. Ouais, voilà, vraiment, Alternativa, c'est construit grâce au Tour.
D'accord.
Voilà. Mmh. Et là, c'est le troisième. Donc, les deux premières éditions ont été déjà un grand succès. Il y avait des objectifs. Le deuxième tour, l'objectif, c'était la désobéissance civile. Mmh. Donc, on faisait des formations en désobéissance civile de partout. Et là, le troisième, la thématique, l'objectif, c'est de transformer les territoires. Donc, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé les gens, on les a formés. Et maintenant, il faut que les victoires s'enchaînent, qu'on ait vraiment des transformations effectives et concrètes des territoires. Et où que ce soit, où qu'on passe, ça peut être la création d'un lieu, ça peut être de créer un jardin, ça peut être aussi de faire des actions de désobéissance civile pour certains endroits. Et à Marseille, donc, nous, on s'oriente, on est en train de co-construire en fait, ces actions concrètes avec les collectifs qui nous rejoignent, puisque à Marseille, on est en train de construire un interassociatif pour accueillir le Tour Alternativa. Donc, il n'y a pas qu'Alternativa qui construit cet événement. Donc, la première association qui nous a rejointe, ça a été Marseille en Transition. Mais depuis, on commence à enchaîner les associations qui nous rejoignent, comme Zéro Ouest Marseille, la Técopole. Je vais sans doute en oublier, je suis désolé, mais voilà, il y en a plusieurs qui sont en train d'arriver. Il y a des quartiers populaires, donc comme Accueil et Rencontre, par exemple. Okay. Les tables de quartier, enfin voilà, donc tout ça fait que ça va dans le sens de la programmation aussi qu'on va faire, de faire de l'écologie populaire le centre de ce que va être le Tour Alternativa à Marseille. Mais globalement, c'est partagé par toutes les étapes. On est vraiment dans la création d'un mouvement de masse, mais qui soit de l'écologie populaire et de transformation concrète des territoires. Donc, vraiment, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, je retiens que les deux fils rouges de ce Tour Alternativa, ça va donc être l'objectif de transformation concrète du territoire et de l'écologie populaire, donc qui s'adresse à toutes et tous, que chacun puisse se sentir concerné et s'approprier ces sujets. Est-ce que tu pourrais nous aider à nous projeter sur ce tour? Bon, j'imagine que là, à 6 mois, la programmation n'est pas définie ni arrêtée, mais est-ce que vous avez déjà des premières pistes de ce qui rythmeront ce week-end de festivité?
Oui, et puis en plus, j'ai oublié un partenaire, c'est quand même la fresque du climat.
Ah, j'ai failli être vexée.
Voilà, qui va organiser une fresque géante pour 1000 personnes, c'est quand même incroyable. Et c'est trop bien d'arriver à lier tous ces événements qui étaient en préparation. Et plus ça va, plus en fait on se rend compte qu'il y a des faisceaux de choses qui se passent et qui autour de cette date-là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et tout semble converger vers cette date-là. Et du coup, le Tour Alternativa pourrait être le catalyseur de plein d'initiatives. Il y a la Marche mondiale pour la paix aussi qui commence, je crois, le 2 octobre sur le cours Julien et qui veut aussi peut-être relier le Tour Alternativa. Voilà, et plus ça va, plus il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Au niveau de la programmation, donc on n'a pas dit quand même que ça allait être très certainement sur le Canebière et le Vieux-Port, qu'il y aura des concerts, il y aura un village des alternatives qui sera mixé avec un vide-grenier. C'est vraiment, en fait, le truc, c'est un peu aussi ça, c'est ce qu'on avait fait avec le village en transition, avec Marseille en transition en 2021, il me semble. C'est d'arriver vraiment à mixer les publics pour élargir les cercles et pour pouvoir provoquer de l'engagement auprès de tout le monde. Et donc, il y aura des conférences, des tables rondes, des débats, des ateliers peut-être même pratiques, de low-tech, par exemple. En fait, on peut tout imaginer. Et on est, comme c'est quand même dans pas mal de mois, on est vraiment en train de rassembler un peu les idées de chacun, de chacune. Et surtout, on ne veut pas arriver avec un truc qui est déjà tout ficelé et que les collectifs qui arrivent n'aient plus leur place, en fait. Mm-hmm. Donc, vraiment, on veut que cette co-construction aussi, ce soit des apports de ces collectifs qui est à ce moment-là.
Et vous êtes en partenariat avec la mairie pour faire tout ça sur le Vieux-Port, la Canebière.
Alors, on est en lien avec la mairie. Okay. C'est du soutien de la mairie qu'on demande. Le partenariat, c'est un petit peu plus engageant. C'est nous qui sommes maîtres de la programmation. Pas qu'Alternativa, mais les collectifs qui sont là aussi. Hein. Et effectivement, on invitera les élus à la plupart des tables rondes ou des conférences, que ce soit la mairie, mais aussi on invitera des personnes de la métropole, de la région, parce que il faut que tout le monde s'y mette, en fait.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment d'avoir un week-end totalement dédié sur les sujets de transition écologique et solidaire et que ça parle à tous les citoyens, citoyennes, aux élus. Je ne sais pas si les entreprises seront visées aussi.
Alors les entreprises, on va en inviter. Alors les entreprises de l'ESS, ça c'est, j'allais dire, c'est normal. Après, on va voir mais on pourrait faire venir d'autres entreprises, même peut-être de l'industrie, à certains moments, certaines tables rondes, pourquoi pas, en fait. Alors, Total, non, ça c'est clair. Voilà. Et j'ai oublié que je voulais dire quelque chose qui était assez important aussi. Oui, on va s'élargir aussi à d'autres cercles qu'on ne touche pas d'habitude, qui peuvent être aussi tout ce qui est un peu religieux, notamment. Il y a l'Église verte qui veut rejoindre le Tour Alternativa aussi. Okay. Peut-être qu'il y aura aussi des catholiques avec l'Audate aussi qui vont arriver. Donc voilà, là aussi, en fait, on veut vraiment élargir au maximum. Et pourquoi pas faire des ateliers sportifs, des choses comme ça, avec des clubs de sport ou des jeux d'échecs dans la rue. Enfin, c'est le Tour Alternativa, c'est aussi l'occasion de se... Puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on veut aussi avoir une zone sans voiture pendant tout ce week-end-là et avec les transports en commun gratuits. Okay. Voilà. pour se projeter vraiment, de se dire, bah, tiens, on peut se balader en ville. Ah putain, mais il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas les bagnoles qui klaxonnent. Ça sent moins les gaz d'échappement. Et en plus, on peut se déplacer librement. Enfin, voilà, d'essayer de se replacer dans un autre imaginaire aussi.
Ah, ce serait formidable d'avoir la ville totalement débarrassée de ses voitures et de ses scooters. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je crois que tu ne l'as pas mentionné dans le programme, mais est-ce qu'il est question d'une vélorution le vendredi soir?
Bien sûr.
Parce que les vélorussions, c'est tous les premiers vendredis du mois. Et donc, il s'avère que le vendredi 4 octobre, ce sera un vendredi, un premier vendredi du mois.
Et oui, alors c'est là où on voit qu'il y a des convergences incroyables. Parce qu'en fait, au début, on n'avait même pas pensé à ça quand on a fait le choix de la date. Et on s'est dit, pour telle ou telle raison, je ne sais plus, on a dit, ça va être le premier week-end d'octobre. Et c'est la vélorussion. Et ce qui tombe bien aussi, parce qu'à chaque étape du tour, il y aura une balade à vélo ou vélorussion, ça dépend de comment on l'appelle, quoi. Voilà. Nous, du coup, la phase maintenant qui nous reste à faire, c'est de contacter tous les collectifs de vélo pour justement pouvoir organiser ça avec elles et eux, pour mettre le vélo vraiment au centre de l'arrivée du Tour Alternativa et d'en profiter pour porter toutes ces revendications-là. Quoi. Ouais.
Vélo qui est déjà au centre d'Alternatiba et du Tour Alternatiba, voilà, donc ça fait ça. Sens qu'il le soit aussi à l'arrivée. Martine, est-ce que tu veux compléter sur le Tour Alternatiba, comment Marseille en transition s'implique, qu'est-ce que vous, vous portez donc, tu nous as parlé de la Ruée Verte, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais te prononcer?
Alors, il y a d'autres actions. Il y a, bon, j'ai vaguement évoqué tout à l'heure le fait d'essayer de planter autour des arbres dans les rues. Alors ça, c'est des toutes petites actions qui peuvent réunir des gens ponctuellement pour une après-midi de plantation. Il y a aussi quelque chose qui s'est fait les deux années précédentes qui permettait de réunir les différentes villes en transition du département. Qui se faisait au printemps. Et Christophe, je vais avoir besoin de ton aide parce que l'appellation m'échappe.
Festicité. C'était ça?
Ah, je t'entends mal.
Festicité.
Et voilà, c'est ça, c'est Festicité. désolée pour mon trou de mémoire. Donc ça, c'est les actions de Marseille en transition pure. Et Christophe a été très complet sur la description de ce qu'on prévoit pour l'arrivée du Tour. Moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que le but, c'est d'arriver à avoir des actions, mais qu'en même temps, cette arrivée du Tour, ce soit une fête pour tout le monde. Voilà, que ce soit vraiment un événement qui reste dans les esprits des gens, comme un moment de partage et un moment de fête.
Ça fait un peu écho avec ce qui est en train de se jouer en ce moment avec les Jeux Olympiques, qui devaient être une grande fête populaire et puis qui est de moins en moins populaire, avec cette volonté de se retrouver autour du sport, avec beaucoup de personnes qui viennent du monde entier, en tout cas de la France, pour se regrouper autour de valeurs communes, et où l'esprit de fête est de moins en moins fort, avec vraiment un triage sur le volet, des enquêtes administratives. Vous vous positionnez un peu comme une position alter.
C'est ça, c'est que nous, on n'est pas du tout partis dans cet esprit-là et que ça restera une fête populaire, le Tour Alternatiba.
Quelque chose de joyeux, de convivial et que ce ne soit pas de l'écologie plombante et culpabilisante, mais justement de l'écologie désirable qui donne envie de se mettre en action et qui rend demain attractif, en fait.
C'est exactement ça.
Exactement, le fameux sujet des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits.
Mais justement, si je peux rajouter quelque chose sur les récits, on a dans notre rétro-planning avant le tour, on a commencé à caler plusieurs événements et on s'est dit qu'on aimerait pouvoir faire des ateliers d'écriture collective du futur avec un outil qui s'appelle Futur Proche, par exemple. Et qui nous permettrait de collecter des récits jusqu'au tour et de pouvoir publier les récits le jour où le tour arrive à Marseille. Et cette idée est en train d'essaimer un peu au sein des autres étapes du Tour Alternatiba. Donc peut-être qu'ils ont aussi envie de faire ça et que du coup on ferait un livre carrément, un livre avec ces récits qui pourrait peut-être être mis en image, peut-être par des enfants ou des artistes qui voudraient y participer.
Ah, super! Ça ferait de fabuleux récits tout au long du tour, très précieux pour Alternatiba. Et justement, sur la question des imaginaires, notre question habituelle qu'on pose aux invités, on est en 2030, Marseille a réussi sa transition écologique et sociale. À quoi cela ressemble, Martine? Est-ce que tu veux te prêter à l'exercice d'imaginaire?
Pour moi, ce qui fait l'identité de Marseille, c'est sa diversité. Se retrouver dans une ville quasiment sans voiture, puisque bon, je pense difficile de les éliminer complètement. Il y a quand même des métiers qui nécessitent des livraisons. Il y a quand même des gens qui nécessitent d'être transportés. Donc, mais on peut dire quasiment sans voiture. Donc, une ville calme sur le plan des bruits de moteur et dans laquelle on entendrait à nouveau les gens, les cris des enfants, les rires des enfants, les oiseaux et une ville apaisée et joyeuse. Voilà.
Super, merci. La question des voitures revient très souvent quand on pose cette question, c'est amusant. Christophe ?
Alors moi, ce serait, pour l'illustrer, ce serait presque d'arriver en 2030 à avoir développé la ville du quart d'heure. Mmh. Donc la ville du quart d'heure, en fait, c'est très simple. Hein, en fait, il faut qu'on puisse, dans un rayon d'un kilomètre à pied ou 15 minutes, pouvoir avoir accès à l'essentiel des services. Donc des services publics, des commerces de première nécessité, j'allais dire, au moins, et du sport, de la culture, tout ça. Et dans le but, en fait, de recréer cette vie du village qu'il pouvait y avoir avant, et il y a 111 villages à Marseille, ben en fait, on pourrait faire 111 villes du quart d'heure à Marseille. Et bien sûr, du coup, ça réduirait les déplacements, ça réduirait la place forcément de la voiture.
Ouais. Cela vient en opposition à ces villes qui ont émergé depuis les années 50-70 avec la cité dortoir, la zone industrielle où il y a tous les commerces, la zone où il y a tous les bureaux et les zones de travail, le centre-ville qui perd en attractivité. Donc, c'est très intéressant ce concept de la ville du quart d'heure. Ouais.
Et puis aussi peut-être...
Avant tout.
Ouais. Tu voulais parler, Martine ?
Juste, je voulais dire qu'une ville, ça doit vivre avant tout.
Absolument, ouais.
C'est ça. Et aussi vivre, mais vivre différemment. On peut se projeter dans quelque chose où, en fait, on aurait beaucoup moins de temps à consacrer à une activité qui est liée au travail. Mmh. Et peut-être, si on arrivait à réduire le temps de travail, ben pourquoi pas arriver à développer d'autres activités par ailleurs qui seraient complètement librement choisies. Et puis pour arrêter avec ce... arriver à développer un système économique, un microsystème économique en dehors du capitalisme, des choses comme ça. Quoi.
C'est la conversation qu'on avait juste avant en préparant cette émission. Est-ce que tu veux nous citer les ouvrages que tu mentionnais à ce sujet, si ça peut inspirer nos auditeurs, auditrices ?
Alors, l'ouvrage qui m'a le plus... Enfin, il y en a vraiment trois là, qui m'ont beaucoup inspiré. Le premier, c'est Écotopia, c'est d'Ernest Kallenbach, je crois. Voilà. C'est un ouvrage des années 70 et qui... Et en fait, qui résume que c'est trois États des États-Unis qui ont fait sécession avec le reste des États-Unis pour créer un État écologique. Et donc, c'est un modèle de... En lisant ce bouquin, on voit le modèle de société dans lequel on pourrait vivre. Mm-hmm. Et là, beaucoup plus récent, c'est... J'ai lu « Paris pour tous » d'Adrien Clent, qui est suivi de « La vie devant nous » ou « La vie est à nous ». Voilà, pardon. Et là c'est plus sur le temps de travail, mais réduire le temps de travail, donc travailler 15 heures par semaine pour pouvoir justement répondre aux besoins essentiels de notre vie et du coup pouvoir réduire notre empreinte écologique de façon considérable. Voilà, il y a plein de clés, mais ça je ne veux pas vous en dire plus, il faut vraiment les lire et on espère bien que l'auteur Adrien Clent puisse venir sur le tour. On est en train de le contacter là.
L'invitation est lancée.
Et la question du travail est une question qu'on aborde assez régulièrement dans cette émission et en préparant l'émission avec Christophe, on n'avait pas tout à fait la même vision de ce que c'était, notamment par la définition même qu'on peut avoir du travail. Le mot travail qui vient du latin tripalium, qui veut dire torture, pris dans sa vision, dans sa définition classique, peut-être quelque chose de contraignant, c'était ce que tu défendais plus, Christophe. Ouais. Là où pour moi le travail c'est l'effort et où dans un monde qui va être contraint en ressources, qui va être plus dégradé, où il va falloir qu'on descende un peu dans la pyramide de Maslow pour répondre à nos besoins primaires, manger, vivre en sécurité, se loger, se vêtir, il y aura toujours besoin d'un certain travail. Et pour ce qui me concerne, quand j'aborde cette question-là, c'est plus la question de sa juste place et faire un travail qui fasse sens, où notre contribution à la société reste un effort, reste du travail, mais tant que c'est choisi, que c'est voulu et qu'on y prend plaisir, eh bien, dans ces cas-là, ça change toute la ça change le prisme. Par exemple, le fait qu'on enregistre cette émission, c'est à proprement parler une forme de travail. Pourtant, je pense qu'aucun d'entre nous, aucune, n'a ce sentiment que ce soit quelque chose de contraint parce qu'on prend goût à ce qu'on fait et à être contributif à cette société. Donc, c'est intéressant de savoir aussi quel est l'imaginaire qu'on peut projeter derrière l'emploi de ce mot.
Exactement.
Merci beaucoup, Marin, pour ce mot de la fin. Ou peut-être que, Christophe, tu as une ou deux annonces à passer avant qu'on rende l'antenne.
Oui, alors vous pouvez aller sur le site d'Alternativa Marseille et on a une page sur le tour Alternativa qu'on va accueillir à Marseille et il y a un formulaire si vous voulez vous porter bénévole. Okay. Pour participer soit à l'organisation, soit juste être bénévole pour la Revue du Tour, ben, il suffit de remplir ce formulaire et on vous contactera.
Super.
Par la suite.
Et il me semble que si vous êtes basé à Marseille, vous pouvez venir à la base mardi prochain, le 19 mars.
Oui.
Et il y aura un accueil des nouvelos.
C'est ça.
Et puis, ben, on appelle aussi toutes les associations qui travaillent sur les sujets de transition écologique et solidaire à se joindre autour et à proposer leurs projets. L'émission touche à sa fin. On vous souhaite une bonne soirée. On se dit à mercredi prochain avec Filia pour parler du lien intergénérationnel.
Bonsoir.
Au revoir,
à la semaine
Martine.
Prochaine.
Bonsoir.